Elles ont un cerveau pas plus gros qu'une tête d'épingle et pourtant les fourmis sont des insectes sociaux aux capacités individuelles et collectives ultra sophistiquées. Les chercheurs en éthologie n'en finissent pas d'ailleurs de découvrir la complexité et la singularité de ces hyménoptères. Ce sont quelques-uns de ces comportements étonnants que nous allons évoquer cet après-midi dans la tête au carré pour découvrir par exemple le sens de l'orientation exceptionnelle des fourmis qui sont dotées, vous le verrez, d'une excellente mémoire visuelle. J'attendais maintenant vos messages, vos questions sur franceinter.fr. Et sur le mot-clé, l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, l'arrivée de nouvelles catégories de nuages dans l'Atlas international qui leur est consacré.
Et oui, un atlas qui n'avait pas été réédité depuis 1975 et qui est pour la première fois disponible en ligne. On découvre les volutus et les homo mutatis avec la physicienne Isabelle Rouedi.
Et c'est Clément Baudet qui réalise toute cette semaine La Tête au Carré, préparée par Chantal de Montagny avec Thomas Lehété.
La Tête au Carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et dans le cerveau des fourmis, c'est là que nous irons dans quelques instants avec mes invités, les éthologues Audrey Dussoutour et Antoine Vustrard. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Audrey Dussoutour, il n'y a jamais d'embouteillage, paraît-il, chez les fourmis, vous confirmez?
Et non, je les étudie depuis 15 ans et je n'ai jamais observé un seul embouteillage. Toujours une solution émerge du groupe.
Extraordinaire. On peut s'en inspirer pour nos propres problèmes urbains ou pas?
On pourrait si on pensait différemment.
Bon, on va voir justement ce qui se passe dans leur tête. Antoine Vustrard, les fourmis ont justement un cerveau ultra doué pour le sens de l'orientation.
Oui, c'est près d'un million de neurones. Chaque neurone, presque 100 000 connexions. Donc, une vraie prouesse de miniaturisation. Et effectivement, je ne les ai jamais vus se perdre sur le terrain non plus. Ouais.
Et ben, vous allez nous raconter toutes vos observations. C'est le dossier de l'émission pour découvrir donc le comportement à la fois individuel et collectif des fourmis avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent.
La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et on a tous un jour levé le nez dans le ciel pour regarder les nuages. Eh bien, un atlas leur est consacré et sa réédition est à la une de la science.
Ça formait une sorte de tortue avec, on pouvait deviner la tête devant, un gros corps et puis quatre pattes sur les côtés. Et puis, c'est vite transformé en une sorte d'hippopotame.
Mais je ne veux pas aller regarder les nuages. C'est vrai qu'il y a peut-être des formes à regarder. Moi. Non, ça ne m'intéresse pas. Franchement, les nuages, mais c'est pour les enfants, ça.
Et mais ce sont surtout les météorologues qui regardent et nomment les nuages. À l'instant, c'était extrait de l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture et l'Organisation Mondiale de Météorologie qui vient donc de dévoiler la nouvelle version de son Atlas Mondial des Nuages, une édition totalement digitale, une dizaine de nouvelles espèces de nuages. Et Isabelle Rouedi pour nous en parler. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes physicienne, membre du secrétariat de l'Organisation Mondiale de Météorologie. Vous êtes avec nous en direct du siège à Genève et dans ce studio, Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Notre partenaire avec Reporter.net. Hervé, l'Atlas des nuages fait donc peau neuve. Vous avez regardé les très belles photos pour nous. Qu'est-ce que ça donne?
Eh ben, ça donne que nous sommes des grands enfants, contrairement à ce que disait la dame. Et aujourd'hui, eh bien, ça n'est plus tout à fait la tête au carré. Pendant quelques minutes, c'est la tête dans les nuages. Les flocons parsèment le bleu azurien de ce ciel printanier. C'est merveilleux. Effectivement, on l'attendait depuis plus de 30 ans, cet atlas international des nuages, qui a été lancé d'une certaine manière. C'est une science qui remonte à loin par Luc Hovard en 1802, qui a eu l'idée de classifier les nuages. C'est une science très intéressante. On va le voir. C'est une science participative. C'est-à-dire, les gens envoient des photos de nuages et c'est à partir de ça que les spécialistes que nous allons entendre définissent ces merveilleux flocons nuageux. Et puis c'est une science avec relativement peu d'informatique qui se base sur la reconnaissance visuelle. Il y a 10 genres de nuages qui se décomposent en plusieurs espèces qui elles-mêmes se décomposent en des variétés et c'est tout simplement très joli.
Et on parle d'espèces, donc Axel.
Alors pour commencer, Isabelle Rouedi, une question que je me suis toujours posée, comment sont choisis les noms très poétiques que prennent les nuages?
Alors tous les noms des nuages sont basés sur une classification latine, comme on classifie aussi l'arbre ou les animaux. Donc c'est toujours des noms latins. Et ces noms décrivent l'aspect du nuage, soit sa hauteur, soit sa forme. Donc ils représentent le nuage.
Comme on le voit depuis le sol, parce que j'imagine que si on le voit depuis le ciel, on ne voit pas de la même façon.
Alors c'est en effet depuis le sol. On décrit aussi en partie dans l'atlas certains nuages vus depuis le ciel ou vus depuis dessus pour des observateurs qui sont situés sur les montagnes. Mais la base de la classification est pour des observateurs au sol, oui.
Pourquoi cette réédition de l'atlas, comme le disait Hervé, qu'on attendait depuis 30 ans? Il y avait à revoir la classification?
Alors l'ancien atlas, il était disponible uniquement en version papier. Et entre-temps, il y avait beaucoup d'autres atlas qui ont été développés sur Internet et qui ne représentaient pas forcément les nuages avec les classifications correctes. Donc ça mettait en quelque sorte en danger aussi la classification, la façon dont on rapporte les nuages lors d'observations et qui sont utilisés ensuite pour les prévisions météorologiques ou climatologiques.
Alors Isabelle Rudy, dans ce nouvel atlas, on parle d'une dizaine de nouvelles espèces donc de nuages. Vous pouvez nous en citer quelques-uns pour qu'on entende justement cette poésie latine des noms là.
Alors il y a par exemple le volutus. Il y a aussi l'asperitas, il y a le cataracta genitus, l'homogenitus. Mmh. Donc le volutus, c'est le plus grand changement en fait qu'on a fait dans la classification, parce que c'est le niveau le plus élevé des changements qu'on a effectués. C'est au niveau des espèces. C'est un nuage qui est une sorte de long rouleau qui s'étend sur plusieurs kilomètres et qui a l'air de tourner autour de son axe. Il peut être soit solitaire, soit des fois il y en a plusieurs. On le retrouve surtout en Australie, mais aussi à d'autres endroits du globe.
Mmh. On voit aussi que les Homo mutatis font leur entrée dans l'atlas. C'est ces traînées laissées dans le ciel par les avions. Ça m'a étonné. On les considère comme des nuages alors?
Donc quand on fait une observation météorologique du ciel, on regarde ce qu'on voit dans le ciel. Et si un nuage a été formé par un être humain, ben il est quand même dans le ciel, donc on le décrit. Et c'est pour ça qu'on décrit maintenant justement les traînées d'avion comme étant Homo mutatis. Et si ces traînées s'étendent uniformément et recouvrent le ciel, ça devient des Homo mutatus.
Il y a un certain nombre de gens qui s'inquiètent de ce qu'ils appellent les chemtrails. Vous devez bien connaître ça. Qu'est-ce que répondent les spécialistes des nuages comme vous à cette idée que des chemtrails seraient faits volontairement par des espèces d'agences d'espionnage?
Alors nous, on s'occupe pas vraiment des chemtrails, on regarde justement l'aspect du ciel pour pouvoir utiliser ça dans les prévisions météorologiques. Mais on ne regarde pas vraiment la composition interne des nuages.
En tout cas, dans cet atlas, donc arrivent les nuages, on pourrait dire liés directement aux activités humaines, c'est ça, Isabelle Rudy?
Ça oui, on décrit plusieurs sources de formation de nuages, dont celles qui sont formées par l'homme, mais pas uniquement, ça peut aussi être, on décrit la source de nuages qui sont formées par des chutes d'eau, ou par des feux de forêt, ou plusieurs différentes sources comme celle-là.
Sur le site de l'Atlas qui est en accès libre, on voit beaucoup d'illustrations. Comment est-ce que vous avez rassemblé toutes ces très belles photos? Vous êtes parti à la chasse aux nuages dans le monde entier?
Oui, c'est un peu ça. On a surtout mis à contribution toute la communauté météorologique et plus large. Donc on a fait un appel à soumettre des photos de nuages qui étaient ouvertes à tout le monde.
On peut toujours vous en envoyer ou pas?
Actuellement, on est en train de finaliser l'atlas, donc on n'est pas vraiment à la recherche de nouvelles images, sauf si on en a certaines qui sont nettement meilleures que celles
Très bien.
Qui sont actuellement sur l'atlas.
Hervé, pour terminer.
Est-ce qu'on peut quantifier en quelque sorte les catégories de nuages, et notamment est-ce que les nuages homo mutatis, enfin nés un petit peu de l'activité humaine, prennent une importance plus grande que ça n'était le cas auparavant?
Alors maintenant, avec la nouvelle classification, on va pouvoir les décrire plus clairement. Mais c'est clair que les nuages liés à l'activité humaine prennent plus d'ampleur, non seulement par les traces laissées par les avions, mais aussi par les nuages qui sont émis par des usines, par exemple. Donc ça, c'est clair qu'il y en a beaucoup plus qu'avant.
Est-ce qu'on peut les voir donc sur Internet, c'est ça? Un site est dédié pour le public maintenant?
Il y a un site qui est accessible à tout le monde, non seulement aux météorologues, mais aussi au public en général. Il y a plus de 600 images dessus.
Et vous donnez son adresse, du coup, Isabelle Rudy, pour terminer?
Alors, c'est www.wmocloudatlas.org.
qu'on retrouve sur la page Facebook en lien avec un petit guide pour nommer les nuages quand vous les voyez dans le ciel.
Et si jamais vous en trouvez un d'exceptionnel jamais vu auparavant, n'hésitez pas un seul instant. Merci beaucoup Isabelle Rudy. Et puis évidemment cette classification, cet atlas qu'on retrouvera sur reporter.net dès demain.
Avec des images.
Merci beaucoup et à lundi. Au revoir Axel.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le rôle des arbres dans la régulation des gaz à effet de serre est à revoir. On savait déjà qu'ils émettent du monoxyde de carbone. Eh bien, on vient de découvrir qu'ils émettent également du méthane. Les effets de ce gaz sont 25 fois plus importants que ceux du monoxyde de carbone. La quantité de méthane émise semble varier d'une espèce d'arbre à une autre. Et le chercheur américain qui signe la publication n'explique pas vraiment d'ailleurs l'origine de ce méthane. L'une des hypothèses serait qu'il est créé dans quelques points chauds du sol, puis les arbres l'absorbent par leurs racines avant de relâcher le méthane dans l'air par le tronc. Des tests dans les forêts sont à venir pour cerner davantage les mécanismes qui sont à l'œuvre. Les bébés pleurent plus au Royaume-Uni, au Canada et en Italie, aux Pays-Bas. C'est une étude anglaise qui le montre. Les chercheurs ont rassemblé des données de 8700 enfants. Ces données s'intéressent au temps passé à pleurer sur 24 heures durant les 3 premiers mois de ces bébés. En moyenne, ils pleurent 2 heures par jour durant les 2 premières semaines. On atteint un pic de 2h15 lors de la 6e semaine. Et puis on redescend 1h10 de pleurs par jour à la 12e semaine. Les pays où les bébés pleurent en revanche le moins sont le Danemark, l'Allemagne et le Japon. Les chercheurs espèrent trouver des facteurs culturels liés au comportement des parents ou à la façon de gérer la grossesse pour expliquer évidemment ces différences. Et puis enfin une vidéo surprenante qui nous montre un blaireau en train d'enterrer une vache. Ça se passe dans l'Utah aux États-Unis. Des chercheurs ont disposé plusieurs carcasses de vaches dans la nature. Ils espéraient en apprendre plus sur les habitudes des charognards en période hivernale. Eh bien c'est chose faite. On savait que les blaireaux ont pour habitude d'enterrer des carcasses pour les conserver. Le sol joue un rôle de garde-manger, mais c'est la première fois qu'on observe un blaireau enterrer un animal plus gros que lui. Il aura fallu en tout 5 jours à ce blaireau de 11 kg pour enterrer la carcasse, elle, de 23 kg, ce qui va lui assurer donc de manger pendant au moins quelques jours. La vidéo de ce blaireau très actif est à voir sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, beaucoup plus petit, ce sont les fourmis. Le dossier de l'émission dans un instant. I've been thinking about what you have done to me. You have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. I know they never understand it, because it was no accident you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do it? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Truth, man, that's him, me and you. One, two. One, two. We'll be right back. Why Did You Did It avec Stretch.
La tête au carré sur France Inter.
Et les fourmis, donc le dossier cet après-midi avec nos invités pour en parler. Deux spécialistes de la question, les éthologistes Audrey Dussutour et Antoine Vustrard. Vous travaillez tous les deux au Centre de Recherche de la Cognition Animale qui se trouve au sein de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Alors il faut préciser peut-être vos spécialités à tous les deux. Audrey Dussutour, vous vous intéressez surtout au comportement collectif des fourmis, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, décision collective, nutrition collective.
Et Antoine Vustrard, vous, c'est plutôt la fourmi en tant qu'individu qui
voilà,
vous intéresse?
Centré sur les capacités individuelles de la fourmi et notamment comment font-elles pour s'orienter lorsqu'elles s'aventurent hors du nid pour aller chercher de la nourriture.
Donc vous travaillez main dans la main quand même.
Ah oui, on a les bureaux face à face.
Voilà, vos travaux sont absolument complémentaires et vous allez nous dévoiler évidemment les résultats des dernières recherches qui ont été menées en particulier donc sur le sens de l'orientation des fourmis. Mais pas seulement, parce qu'il y a déjà beaucoup de questions qui arrivent pour vous sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Alors d'ailleurs, vous avez Jean qui nous dit ceci. Les fourmis, dit-il, sont une sorte d'organisme plutôt qu'une somme d'individus étroitement associés. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là, Antoine Vustrard?
Alors c'est vrai, il y a beaucoup de coopération et on peut voir qu'il y a eu quand même des adaptations au niveau de la colonie, qui fait que la colonie, comme un grand individu qui marche, donc la reine s'occupe de la reproduction, les fourrageurs s'occupent de l'alimentation, donc il y a l'entretien aussi de la colonie par d'autres individus spécialisés, mais ce n'est pas que ça. Les fourmis, il y a aussi beaucoup de conflits au sein de la colonie. Certaines fourmis qui se rebellent et décident de se reproduire elles-mêmes et pondent leurs œufs plutôt que d'aider la reine à se reproduire.
Ah oui, il y a carrément des solitaires qui prennent la poudre des escampettes et qui décident de faire leur vie de leur côté.
Effectivement, enfin, elles restent dans la colonie, mais elles ne s'alignent pas avec les intérêts de la colonie, en fait. Et du coup, ça crée des conflits. Ça dépend des espèces. Il y a des espèces où c'est plus terrible que d'autres. Mais c'est pas une société utopique.
C'est ça. Elles le payent cher ou pas, le fait de vouloir s'émanciper de cette façon-là, en fait?
Ah, le pêcheur, ben là, en fait, la reine souvent mange les œufs de ses ouvrières si elle décide de se reproduire. C'est ce qu'on appelle un peu du policing en anglais. Donc, c'est elle fait un peu la police, quoi.
C'est
donc,
ça.
Elle va manger les œufs des ouvrières un peu rebelles.
Pour garder sa suprématie.
Exactement.
Et imposer son autorité au sein de la colonie. Alors, justement, Paul demande, est-ce que toutes les fourmis sont besogneuses? Est-ce que certaines sont inoccupées? Alors, certaines, donc, s'émancipent, mais est-ce que certaines ne font rien du tout allongées dans leur transat de fourmis?
Alors, c'est ce qu'on appelle des fourmis réserves, entre guillemets, c'est pas qu'elles font rien, enfin elles font rien à l'instant où on les regarde, mais en fait elles vont servir ces fourmis si jamais il arrive une catastrophe, je sais pas, une inondation au niveau de la colonie et que tous les fourrageurs disparaissent, et elles vont prendre le relais. C'est un système de réservoir, donc elles ne font pas rien et aussi elles stockent de la nourriture pour partager avec les autres. Donc c'est pas vraiment rien du tout.
Imaginez si tous les individus de la colonie étaient occupés à faire une tâche, si soudainement pour un accident il y a la moitié qui meurt, la colonie va mal. Mais s'il y a ces individus réserves, faut savoir qu'une fourmi inactive consomme pratiquement pas d'énergie, parce que c'est des individus ectothermes, donc ils régulent pas leur température, donc c'est pratiquement à coût zéro. Donc c'est pas étonnant qu'on voit ces fourmis réserves.
Ouais. Alors qu'est-ce que vous essayez de comprendre exactement chez les fourmis? Qu'est-ce qui vous passionne à ce point? Et puis comment vous travaillez? Tiens, vous êtes entourné de colonies dans votre laboratoire?
Oui, c'est un peu ça. Moi, je travaille sur des fourmis invasives, donc j'ai beaucoup de colonies. Je les trouve en fait à l'extérieur du laboratoire, vu qu'elles ont envahi l'université Paul Sabatier.
Ah oui, donc vous avez qu'à sortir dehors.
Exactement, et on collecte nos fourmis là. Ouais. Et donc on a une trentaine. Enfin, personnellement, moi, j'ai une trentaine de colonies sur lesquelles je travaille.
Il y a combien d'individus dans chaque colonie à peu près?
Des milliers. Et moi, je travaille en plus, comme je travaille sur la gestion des embouteillages, il me faut beaucoup de fourmis, parce qu'il faut que je crée des embouteillages qui n'existent pas.
C'est ça votre boulot?
C'est ça, c'est d'essayer de comprendre comment les fourmis font pour éviter les embouteillages. Donc essayer d'extraire des algorithmes, en fait.
Ouais. Pourquoi est-ce qu'elles ont envahi l'université Paul Sabatier? Alors, ces fourmis, on ne va pas effrayer tout le monde, hein, tout va bien, mais elles viennent d'où?
Il
n'y
a pas de coupable,
c'est
un accident. En fait, on ne dira pas de nom. Il y a un chercheur qui les a ramenés pour les étudier et elles se sont échappées.
Bon, donc c'est ce qui fait votre joie et votre quotidien de
chercheur. Ah oui,
ça
nous rend bien service.
Ouais. Antoine Vustrard, vous ne travaillez pas spécifiquement sur les fourmis, mais ça fait partie justement des insectes que vous étudiez.
Oui, voilà. Enfin, je suis quand même spécialiste de la navigation des fourmis en particulier, mais je regarde aussi la navigation chez les humains, par exemple. Mais nous, on va aller chercher des espèces qui ne sont pas dans l'université Paul Sabatier, mais des espèces qui ont la particularité d'être douées en navigation autonome. Donc c'est typiquement des espèces qui n'utilisent pas de pistes chimiques,
oui.
Mais où les individus vont sortir du nid pour chercher la nourriture en solitaire.
Donc toutes les fourmis n'utilisent pas la chimie, c'est ça pour
Toutes les fourmis utilisent la chimie pour communiquer, mais toutes les fourmis ne laissent pas des pistes chimiques à l'extérieur du nid lorsqu'il s'agit d'indiquer aux autres congénères où est-ce qu'est la nourriture.
Ouais. Et ce sont ces fourmis-là, vous, qui vous intéressent en particulier.
Donc ça, nous amène sur typiquement deux types d'écosystèmes. Il y en a beaucoup dans les systèmes un peu semi-désertiques ou désertiques, où là, il y a une ressource de nourriture qui est tous les petits insectes grillés qui n'ont pas survécu l'été. Et typiquement, il va y avoir des fourmis spécialisées qui sortent que quand il fait chaud l'été, récupérer ces insectes.
Ah,
mais vu que ces insectes sont éparpillés un petit peu partout, ça ne sert à rien de ramener 30 000 congénères à un même endroit. Donc, ces fourmis vont s'éparpiller pour trouver ces insectes, d'où la navigation autonome.
Mais qu'est-ce qu'elles font de ces animaux grillés alors? C'est une façon de nettoyer, de les ramener pour donner de quoi manger à leurs congénères.
C'est ça, source de nourriture pour les larves, en particulier dans le nid.
Audrey Dussoutour, vous avez prononcé un mot algorithme il y a quelques instants, mais oui, il est enregistré, on en a la preuve. Ben, ça tombe bien parce que justement, le travail sur les fourmis, ça fait l'objet aussi d'algorithmes, comme nous l'explique dans l'extrait de ce documentaire du CNRS, le physicien et chercheur Hervé Swirne.
Eh bien, les chercheurs, à la fois informaticiens et mathématiciens, ont commencé à s'intéresser au comportement collectif des fourmis dans les années 90, essentiellement en étudiant leur comportement pour en tirer des algorithmes d'optimisation. Un algorithme d'optimisation n'est pas une équation mathématique. C'est un ensemble de règles qu'on va donner à un ordinateur pour qu'il exécute toute une série de tâches qui vont aboutir à trouver une solution optimale. L'algorithme de colonie de fourmis fonctionne sur une imitation du comportement des fourmis. Ces algorithmes d'optimisation ont tout d'abord été utilisés pour résoudre ce qu'on appelle des problèmes de chemins optimaux dans un graphe, c'est-à-dire de trouver le chemin le plus court qui relie des points entre eux. Ce type d'algorithme est utilisé lorsque le nombre de possibilités est astronomique et qu'il serait hors de question d'essayer de les tester une par une.
Voilà, Audrey Dussoutour. Intéressant, ce que nous dit ce physicien, justement, qui fait des travaux aussi, mais qui vont exactement dans le sens de ce que vous faites dans votre laboratoire avec les fourmis.
Oui, tout à fait. En fait, c'est des travaux qui ont été faits par Jean-Louis Denebourg dans les années 90, qui était mon directeur de thèse, qui a montré que les fourmis savaient sélectionner le chemin le plus court, et cela sans comparer les chemins. Et en fait, cela vient du dépôt d'une piste chimique, donc juste pour expliquer aux auditeurs, en fait les fourmis quand elles se déplacent elles déposent une piste chimique, c'est comme le système du petit poucet. Hein.
Oui, toujours ces petits cailloux.
Exactement, elles vont indiquer comme ça le chemin à prendre. Et bien sûr, la fourmi qui va prendre le chemin le plus court, elle va arriver plus vite et sa trace sera disponible plus vite et du coup les autres fourmis vont le suivre et avec un système d'amplification, parce qu'il y a beaucoup de fourmis qui participent à l'expérience, il va y avoir la sélection du chemin le plus court, mais sans jamais aucune comparaison. Et donc, à partir de cette expérience très simple, a été extrait des algorithmes qui ont été appliqués, par exemple, dans le problème du voyageur de commerce qui doit rejoindre toutes les villes de France. Et en fait, l'algorithme fourmi, il est beaucoup plus efficace que tous les algorithmes qu'on avait jusqu'à présent.
Incroyable, incroyable. Donc voilà l'exemple vraiment d'une inspiration sur le travail d'un animal, qu'on peut adapter aussi quand même à des applications humaine, du coup.
Oui, ça a été fait en fait assez fréquemment avec les algorithmes fourmis. Il y avait une poste danoise qui s'était servie aussi des algorithmes fourmis. Ouais,
donc c'est cet algorithme d'optimisation dont nous parlait ce physicien dans un instant. Mais alors imaginons que justement vous preniez une colonie de fourmis et qu'elle découvre pour la première fois un chemin à emprunter. Il n'y a pas de génération qui l'a précédé justement pour justement mettre ces petits cailloux là que vous nous décriviez.
Ah non, alors au départ, elles partent toutes seules. Hein. Ce qu'on appelle des scouts, on surnomme les scouts. Elles partent, mais elles laissent quand même dans les espèces sur lesquelles je travaille, qui ne sont pas les mêmes espèces qu'Antoine, les miennes, elles laissent une piste chimique même au départ. Donc elles peuvent retenir le chemin, mais les espèces sur lesquelles travaille Antoine ne laissent pas de piste chimique, donc elles doivent mémoriser.
Ouais. Mais est-ce que du coup, elles sont performantes dès le début, sur le chemin le plus courant emprunté ou pas?
Ah non, alors au début, il va y avoir beaucoup d'exploration.
D'accord.
Mais effectivement, elles vont avoir un trajet qui va optimiser les chances de tomber sur de la nourriture.
Magali demande, est-ce qu'on pourrait imaginer de se baser sur le modèle des fourmis pour créer des réseaux d'intelligence artificielle? Audrey Dussoutour.
Alors, les fourmis, oui, les réseaux ont été beaucoup étudiés chez fourmis, les réseaux de pistes en particulier, parce qu'il y a des espèces de fourmis, comme les fourmis des bois, qui ont des nids qui sont entièrement tous connectés les uns avec les autres, et donc elles ont optimisé ces réseaux parce qu'elles partagent de la nourriture entre les différents nids.
Et c'est des réseaux qui peuvent être sur des superficies très importantes.
Ah oui, plusieurs hectares de forêt.
Ah oui.
Et du coup, ces réseaux ont vraiment été optimisés en termes de robustesse, d'efficacité et de longueur de chemin. Et du coup, c'est vrai que les chercheurs regardent comment ces réseaux émergent à partir du dépôt de pistes chimiques pour essayer d'en retirer des algorithmes qui pourraient être utilisés dans les réseaux de télécommunications, par exemple.
Ouais. Et là, ce sont les mêmes espèces de fourmis qui ont ce grand réseau, ou plusieurs espèces peuvent cohabiter ensemble?
Non, la plupart du temps, elles cohabitent pas très bien. Ouais. Donc, c'est les mêmes espèces. En fait, c'est des nids sœurs qu'on appelle. Il y a un nid mère qui a bouturé.
Ouais. Antoine Dustrard?
Oui, aussi au sein de la tête d'une fourmi, l'étude un petit peu des réseaux de neurones de la fourmi peut avoir des bonnes conséquences sur notre façon de penser l'intelligence artificielle. Les modèles que nous faisons aussi sont inspirés des réseaux neuronaux de fourmis, et il y a des différences assez majeures avec le deep learning du moment, avec Google, toute cette intelligence artificielle, où ce sont des réseaux de neurones pratiquement complètement connectés à chaque couche.
Ouais.
Alors que le cerveau d'insecte, il va être très modulaire, avec des neuropiles spécifiques pour certaines computations. Et on voit là, notamment, avec avoir un cerveau rempli de modules pour des computations différentes, ça va être très facile, avec quelques petits changements de câblage, de changer complètement le comportement qui va sortir. Donc ça donne une énorme flexibilité que ne va pas avoir un réseau de neurones artificiels du moment. Une fois qu'il va être entraîné à quelque chose, il va être spécialiste de ça et c'est tout. Alors que, donc voilà, ouais.
Tout ça dans cette petite tête d'épingle que nous décrivions tout à l'heure. Voilà. C'est fascinant. On se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs pour poursuivre notre chemin sur la piste des fourmis, juste après Marianne Hill. Didn't even really wanna go, but if you get me out, you get a show. There's so many bodies on the floor, so baby we should go and have some more. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Down, did it down, did it down, did it down, down, down. Everywhere I look at people's hands, thrown up in the air to help them dance. Come on, baby, catch me if you can. I know you don't have any other plans. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Down, did it, down, did it, down, did it, down, down, down. Are you down, 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 down? Are you?
are you down? Are you down? Are you dub 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 down? Are you...
Les fourmis accomplissent des prouesses. Année après année, elles récoltent la nourriture pour leur peuple et pour le vôtre. Alors qui est l'espèce inférieure? Nous ne sommes pas vos esclaves, le borgne. C'est vous qui avez besoin de nous. Nous sommes plus forts que vous ne le laissez croire.
Vous voyez, le borgne, la nature obéit à ses lois. Les fourmis prennent la nourriture, les fourmis gardent la nourriture et les sauterelles s'en vont.
Voilà, un film culte chez les éthologistes spécialistes des fourmis comme mes invités Audrey Dussutur et Antoine Justrard. C'était Mille et une pattes qui est sorti en 1999, tout droit des studios Pixar. Voilà, c'est un film qui vous a amusé. Pas mal de choses scientifiquement intéressantes dedans.
C'est très vulgarisé, non?
Mais ouais, c'est bien la vulgarisation.
C'est un des animés que j'ai beaucoup aimé, que j'ai montré à mes neveux pour expliquer ce que je faisais dans la vie.
Eh ben, vous voyez, finalement, ça peut être absolument utile. Voilà, on parle des fourmis avec vous et de l'intelligence en particulier des fourmis. Alors, Antoine Vusserard, qu'est-ce qu'on entend par intelligence? Est-ce que c'est un mot qu'on peut justement apposer facilement à cette recherche sur les fourmis?
Alors, si on veut chercher à découvrir l'intelligence des fourmis, il y a plusieurs approches. Il y en a une qui est un peu centrée sur l'homme, où on se dit, d'après nous, qu'est-ce qui est intelligent? Par exemple, savoir compter, être capable d'apprendre rapidement. Et effectivement, on peut tester des fourmis ou d'autres insectes ou n'importe quel animal, oui, basé sur ces concepts un peu anthropocentrés. Mais il y a une autre approche aussi, c'est simplement d'aller voir sur le terrain ce que font les fourmis naturellement, dans leur environnement naturel. Et là, on va voir quel est le vrai problème pour lequel la fourmi a évolué et à quel point elle est capable de résoudre ce problème d'une façon intelligente, si j'ose dire.
Ouais. Alors, vous allez où pour ça? Vous allez beaucoup sur le terrain, justement?
Ouais, enfin, je fais les deux, en labo et en terrain. Et moi, j'ai été impressionné. La première fois que je suis allé sur le terrain, c'était après 2 ans de labo. J'étais impressionné de voir tous ces comportements incroyables qui émergent spontanément sur le terrain et pas dans le labo. Ouais. Parce qu'il y a toutes ces connexions, ces fils invisibles avec l'environnement écologique. Elle est en phase avec l'environnement dans lequel elle a évolué. Et on s'étonne après, par exemple, dans les zoos, que les animaux se reproduisent pas très bien quand on leur coupe de l'environnement. Mais là, avec les fourmis, on voit vraiment tous ces fils invisibles.
Et ça, on le voit à l'œil nu, vraiment. C'est-à-dire, quand on arrive sur le terrain, on comprend tout de suite le mécanisme de ces stratégies ultra complexes.
Par exemple, il suffit de voir une fourmi, disons, dans la forêt vierge, suivre une route de 20 mètres et retrouver l'entrée de son nid qui va être un tout petit trou au milieu de la forêt vierge, hein, avec toutes ces feuilles mortes, ces bouts de bois. Nous, on fait 5 mètres, on peut déjà se sentir perdu.
C'est vrai.
Et on va la voir faire une route pendant peut-être 10 minutes en payant attention aux prédateurs, tout ça, et éventuellement en utilisant la vision, elle va être capable de retrouver l'entrée de son nid. Donc quand on voit ça, effectivement, on fait « Ah oui, j'avais pas bien compris la puissance du système, quoi. »
Ouais.
Et donc,
c'est une façon de répondre donc déjà à l'intelligence, hein, c'est de voir sur le terrain de quoi sont capables ces insectes.
Hein. Voilà, être en phase avec les problèmes que l'espèce fait face. Et d'ailleurs, quand on a tendance à penser une espèce intelligente, c'est une espèce qui est très flexible, qui apprend beaucoup. Il faut voir qu'au final, toutes les stratégies instinctives et innées, on va voir que les fourmis apprennent beaucoup de choses. Ouais. Mais la première fois qu'elles sortent du nid, par exemple, une fourmi du désert, elle va tendre à éviter les buissons. Les buissons, on marche moins vite, il peut y avoir des prédateurs, c'est pas là où sont leur nourriture. Elles vont l'éviter spontanément. Elles vont sortir que quand il fait chaud aussi, spontanément.
Donc ça, c'est de l'instinct? On pourrait dire ça comme ça?
On peut l'appeler instinct, si vous voulez, dans la mesure où ça va pas dépendre de son expérience et elle va le faire dès le début. Après, avec son expérience, ça va pouvoir moduler ça. Mais là, on peut voir, c'est déjà plus intelligent d'être capable, dès le début, de faire la bonne chose, plutôt que d'avoir à échantillonner l'environnement pour découvrir qu'il y a des prédateurs dans les buissons.
Ouais, ouais.
Par contre, ça, c'est possible que si c'est une information qui est valable à travers les générations. C'est-à-dire, il faut toujours éviter les buissons quand on est une fourmi du désert. Mais par contre, savoir retrouver l'emplacement de son nid va typiquement changer d'une génération à l'autre parce que ça va être un nid différent. Donc là, on peut pas avoir la stratégie instinctive. Et là, on va voir effectivement des apprentissages. La fourmi sort de son nid, fait des petites pirouettes pour mémoriser les scènes visuelles.
Des pirouettes.
Elle fait des petites pirouettes, elle fait des rotations sur place pour faire face à son nid, en fait, et mémoriser la scène visuelle alors que je suis orienté vers l'entrée de mon nid. Elle va faire ça un peu tout autour de son nid. Et en gros, ça, c'est un apprentissage. D'un coup, elle va être capable de mémoriser toute sa vie ces scènes visuelles, parce que typiquement, c'est l'entrée du nid ne va pas changer dans sa vie. Troisième phase, vous avez des choses dans l'environnement qui varient beaucoup plus vite qu'au sein d'une génération de fourmis. Par exemple, où est la nourriture? Au sein de la vie d'une fourrageuse, ça va changer. Donc là, ça devient un petit peu plus délicat. Faut peut-être pas investir trop d'apprentissage non plus. Imaginez.
Dans la même stratégie. Donc, il faut multiplier, justement, les façons de faire.
Oui, voilà. Imaginez, vous trouvez un insecte mort dans le désert et vous investissez vraiment autant d'efforts que vous avez fait pour votre nid. Ensuite, vous revenez à cet endroit-là, mais il n'y a plus d'insecte mort. C'est un peu dommage d'avoir gâché toute cette énergie parce que ça coûte en termes de neurones. Il y a quand même des coûts métaboliques. Par contre, si vous revenez une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, vous avez à chaque fois de la nourriture, là, vous commencez à investir de l'effort. Donc là, on va avoir des courbes d'apprentissage qui sont plus lentes. Donc automatiquement, on penserait, oh, c'est plus lent, c'est moins intelligent. Mais en fait, non, c'est plus intelligent. Mmh. Et ce qu'on voit même chez les fourmis, c'est qu'elles sont capables de réguler cet effort d'apprentissage. Par exemple, si elle arrive à un endroit et elle voit qu'il y a beaucoup de nourriture, elle va investir plus dans l'apprentissage. Donc il y a même cette dynamique de deuxième niveau où elle a connaissance de... Elle va être, en fait, à travers sa vie, elle va de plus en plus devenir adaptée, spécialisée aux variations typiques de son environnement, de sa propre vie. Donc elle démarre avec les choses qui ont été les mêmes pour toutes les fourmis, puis à la fin, ça va être une fourmi unique qui aura vu toutes ces petites variations pour elle. Elle est de plus en plus adaptée, mais du coup, de moins en moins adaptable.
Ouais.
Un petit peu comme nous, quoi.
Donc elle est très spécialisée au fond et au très perfectionnée. Et évidemment, voilà. Pour une chose donnée, on peut parler d'intelligence, Audrey Dussoutour, quand même, là, non?
Oui, oui. Mais moi, c'est vrai que moi, mon domaine de recherche est plus sur l'intelligence collective, donc c'est une autre façon de résoudre les problèmes. C'est comment le groupe arrive à...
Mais il y a un lien direct quand même entre justement la façon dont individuellement une fourmi peut réagir et ce qu'elle offre au fond au collectif.
Exactement.
Parce que sans ça, le collectif pourrait pas réagir non plus.
Tout à fait. Et du coup, il y a vraiment un lien entre le comportement individuel et le comportement collectif. Et nous, on regarde comment les interactions entre les individus, de ces interactions émerge un comportement collectif qui peut paraître intelligent, vraiment comme ça à première vue, mais qui est basé sur des petits comportements individuels où la fourmi va réagir à son plus proche voisin.
Ouais, ça c'est fou parce que parmi le nombre d'individus, justement, chaque variation fait quand même que collectivement, il y a une stratégie qui réussit au bout de...
Ah, exactement, collectivement, elles arrivent à faire des choses absolument incroyables, de construire des nids, réguler des températures, des courants d'air, elles arrivent à tisser, enfin, les capacités collectives des fourmis sont absolument incroyables.
Tout ça dépend aussi des espèces. C'est-à-dire qu'on va dans une colonie, on ne trouvera pas du tout les mêmes stratégies.
Ah oui, ça dépend énormément d'espèces. Moi, je dis tout le temps, il y a 12 000 espèces, 12 000 histoires à raconter.
C'est ça, absolument.
Parce que c'est vraiment le cas. Vous allez avoir des colonies où il va y avoir 2 millions d'individus et vous allez avoir des colonies où il va y avoir 30 individus. Donc, clairement, elles ne vont pas reposer sur les mêmes stratégies. Dans une colonie où il y a 30 individus, il y a beaucoup moins de division du travail, beaucoup moins de spécialisation que, par exemple, chez les fourmis coupeuses de feuilles, qui sont 2 millions, où là, c'est bien partagé. Il y a les jardiniers, les soldats, les fourrageurs. Ouais. Donc là, on a vraiment une division du travail qui a émergé. Alors que dans des petites colonies, c'est beaucoup plus flexible.
Il y a Georges qui nous fait remarquer ceci, est-ce qu'il n'y a pas une utopie de voir chez les fourmis justement un corps social cohérent et solidaire? Pourtant c'est ce que vous nous décrivez quand même, hein. Tout le monde travaille pour une même cause, a priori pour la reine aussi. C'est toujours pour la reine que travaille une colonie?
Ah, il y a une vision, oui, un peu comme ça, mais c'est vrai que moi personnellement je ne le vois pas comme ça. En fait, il faut savoir qu'au niveau génétique, il y a une particularité chez les fourmis, c'est que la reine, donc, c'est elle qui se reproduit, c'est pas un chef, hein, elle se reproduit, c'est vraiment donc, l'organisme qui va produire les nouveaux individus. Et ces nouveaux individus, ils ont une très grande proximité génétique. Donc en fait, nous, entre frères et sœurs, la plupart du temps, on a 50% de proximité génétique.
Proximité génétique, pardon, avec la reine ou entre
avec
elles
avec leurs sœurs, parce qu'en fait, la reine produit plein d'individus qui sont tous sœurs. Parce qu'en fait, ah oui, chez les fourmis, il n'y a que des filles, pratiquement. C'est bon à préciser. Et du coup, ce sont toutes des sœurs qui ont 75% de proximité génétique au lieu de 50%. Donc elles ont souvent plus intérêt, entre guillemets, de s'occuper de leurs sœurs et de coopérer avec leurs sœurs que d'avoir leur propre descendance.
Ouais.
Parce qu'elles ont, en fait, c'est toute une histoire de sélection naturelle, en fait. Donc on va essayer de... Enfin, c'est cette vision qu'on essaie de procréer nos gènes. Et du coup, elles ont plus intérêt à s'occuper de leur sœur que de leur propre...
Tout ça pour perpétuer encore l'espèce.
Hein. Exactement.
Mais ils sont où les mâles, alors, là-dedans, Antoine Vustrar?
Eh ben, ils arrivent
Qu'ils font,
se reproduire.
Ils sont vraiment très minoritaires, alors.
Oui, ils vont être, il va y avoir la reproduction de la colonie où il va y avoir des femelles ailées qui seront des futures reines.
Ouais.
Leur destinée, en fait, c'est de mourir. La plupart vont mourir, mais il y a un petit pourcentage qui va survivre. Pour les mâles, ça va être de féconder les reines et eux, ils meurent tous.
Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le destin d'un mâle.
Ouais, voilà, c'est pas...
C'est très radical.
Ouais.
Bon. Et quand on voit justement des colonies de fourmis, on imagine qu'il n'y a que des femelles quasiment sous nos yeux? Ou il y a quand même quelques mâles qui sont...
Les mâles, vous les repérez la plupart du temps parce que souvent, ils sont ailés, ils ont des petites ailes. Et les gens pensent que c'est des moucherons. Mais on voit rarement des mâles se balader en dehors de la colonie, à part pendant la période de reproduction qu'on appelle l'essaimage, où donc ils vont tous s'envoler pour partir à la rencontre des femelles. Mais sinon, on ne les observe jamais. On les observe, nous, en laboratoire. parce que en laboratoire, on récupère des colonies dans l'environnement et des fois, on ne trouve pas la reine parce que c'est un petit peu le trésor. Et du coup, ben, les ouvrières commencent à se reproduire et elles ne peuvent produire que des mâles puisqu'elles ne se sont pas reproduites.
Bon, ben, la condition du mâle chez les fourmis, ça laisse songeur quand même. Hein. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres messages et questions pour vous sur franceinter.fr.
Un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise. Peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au mali des merveilles, le mali Dieu créa la flamme. Le mali danse dans mon âme. On y soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
C'est moi le capitaine. Tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite. Il reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément. Vire-le, on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible. Aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce ou cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère.
On y soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
Bal de Bamako M et Oxmo Puccino à l'instant.
La tête carrée sur France Inter.
Une fourmilière se remplit en combien de temps? Puisque la reine pond beaucoup.
Ah, c'est une société parfaite au niveau remplissage, si on peut dire, dans la mesure où il y a tout le temps le nombre idéal d'individus. C'est-à-dire que s'il manque de nourriture, la reine va cesser de pondre. Et si par contre on découvre de nouveaux territoires de chasse où je leur donne un gros morceau de pomme, elles vont tout de suite se mettre à pondre plus. C'est-à-dire la société se rééquilibre en permanence pour qu'il n'y ait personne qui meure de faim.
Ouais.
On ne verra jamais une fourmi. Il n'y a pas ces problèmes que nous avons dans nos sociétés de chômage ou de dénutrition. La société fourmi, tout le monde est égal. C'est une sorte de communisme réussi. Et il n'y a pas de gens qui meurent de faim.
Voilà, c'était en 1992 dans Science Inter, présentée à l'époque par Marie-Odile Monchicourt. Elle recevait à son micro Bernard Werber pour parler évidemment des fourmis. Antoine Vustrard et Audrey Dussautour, ça fait partie des incontournables quand même de ce sujet. Hein. On vous en parle souvent, je crois. Hein.
Oui, ben, en fait, quand on dit qu'on travaille sur les fourmis, il y a deux questions qui reviennent. C'est on te paye pour ça. Et la deuxième, c'est tu as lu Bernard Werber?
Et vous, Antoine Vustrard, quelles sont les questions qui reviennent toujours?
Les deux mêmes, plus la troisième question, c'est comment on fait pour s'en débarrasser quand elles viennent dans la cuisine?
Ah oui, les bons conseils, voilà. Et bien, comment on fait pour s'en débarrasser quand elles viennent dans la cuisine?
Il faut nettoyer la cuisine, il ne faut pas qu'il y ait de miettes qui traînent.
C'est tout, hein, voilà. Alors, on parlait tout à l'heure de ce sens de la circulation et du trafic autoroutier de la fourmi que vous étudiez, Audrey Dussoutour. Donc ça, c'est assez fascinant. Hein. Vous nous disiez, il n'y a pas d'embouteillage. Jamais chez les fourmis? Jamais?
J'ai tout essayé.
C'est vrai.
Alors, pour essayer de trouver des embouteillages, en fait, je travaille sur des ponts. Je fais passer des fourmis sur des ponts de plus en plus étroits avec des très, très grosses colonies.
Et vous êtes payé pour ça, alors?
Et je suis payé pour ça. C'est ça qui est hallucinant. Et en fait, à chaque fois, je fais face au fait qu'elles ne sont pas affectées. Et en fait, elles trouvent toujours des solutions. Donc, alors, les solutions sont variables. Par exemple, une de mes recherches a montré qu'elles formaient des petits trains, donc des petits groupes. Elles se désynchronisent complètement sur le pont. Donc, elles se donnent des priorités. Donc, ça, c'est d'abord à toi, puis après, c'est à moi.
Incroyable.
Et ça, ça se fait naturellement. C'est-à-dire que la fourmi, elle va réagir, en fait, à ce qui se passe autour d'elle. Elle n'a pas du tout conscience qu'il y a un problème d'embouteillage, qu'il y a beaucoup de monde, etc. Elle va juste répondre à la densité autour d'elle. S'il y a de la place, il n'y a personne, j'y vais. S'il y a quelqu'un devant moi, j'attends un petit peu. C'est vraiment très poli, en fait, comme comportement. Et c'est vrai qu'on est monté, pour vous donner des exemples, à 25 fourmis centimètres carrés. Donc, c'est comme si vous étiez 12 humains dans un mètre carré. Donc, vous êtes vraiment tassés. Nous, on n'avance pas. Ouais. Les fourmis, elles avancent et le flux est assez fluide.
Mais c'est
fluide.
Ça. C'est-à-dire qu'elles arrivent en plus à rebondir sur de nouvelles stratégies à la vitesse de l'éclair.
Exactement. Si, par exemple, il y a un chemin court qui est encombré, elles vont prendre un chemin plus long. Elles vont le faire ça très, très vite. Ça fait qu'elles ne vont pas perdre de temps.
Mais qu'est-ce qu'elles utilisent alors pour parvenir justement à ces prouesses? Enfin, ce qui nous paraît, nous, comme être des prouesses.
Ah ben, elles utilisent.
Il y a un sens de l'observation. Il y a justement encore les signaux chimiques qui jouent?
Alors les signaux chimiques, c'est ce qui va les faire sortir, c'est tout. Après, ça ne va pas réguler du tout le trafic. Ce qu'elles vont faire, c'est vraiment des interactions locales, c'est parce qu'elles, elles ne sont pas victimes des collisions. C'est-à-dire que si elles tapent l'une dans l'autre, ça ne va pas leur faire mal. Donc en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles arrivent, poussent un peu, ah, ça ne passe pas, j'attends un petit peu, je me mets sur le côté. Donc elles vont répondre à des interactions purement locales. Donc c'est, si notre trafic fonctionnait comme ça, ça serait assez parfait, parce que ça veut dire que, par exemple, les feux rouges, feux verts, par exemple, s'ils réagissaient à la densité locale de voitures, ça marcherait beaucoup mieux que si c'était un truc complètement contrôlé.
C'est ça, oui. C'est fascinant, non, quand même?
Ouais, c'est vraiment...
D'arriver à comprendre comment fonctionnent justement ces systèmes complexes.
Oui, et en fait...
Avec des solutions aussi simples.
Exactement. Et donc, notre travail, ça revient à regarder donc, des vidéos entières de trafic chez les fourmis, à comptabiliser tous ces comportements individuels. Donc, on suit chaque fourmi sur le pont, le nombre d'interactions qu'elle va avoir.
Ouais.
Et ensuite, notre but avec des collègues, c'est de traduire ça en fait en mathématiques, hein, faire de l'algorithmique.
C'est ça.
Et de faire des prédictions. Si, par exemple, je rajoute un chemin, je mets plus de fourmis, qu'est-ce qui va arriver?
Ouais. Vous en rêvez la nuit ou pas, franchement?
Ah oui, quand on compte beaucoup.
Vous faites des rêves de fourmis?
Oui, parce qu'il faut imaginer que c'est hyper aliénant. Mon dernier étudiant, il a compté 1 million de fourmis en 2 semaines.
Et vous avez quoi alors pour les étudiants, Antoine Vustrard, ces fourmis? Vous avez des capteurs? Vous mettez justement des caméras pour suivre leurs mouvements et comprendre leur stratégie?
Alors nous, souvent, sur le terrain du moins, il va y avoir beaucoup de caméras, des caméras à slow motion, donc qui ont un très haut débit. Donc on peut ralentir après la vidéo une dizaine de fois et là apparaissent un peu le monde des insectes.
C'est ça, ouais.
Des comportements très rapides de scanning où elles vont faire ces petites pirouettes par exemple.
Ouais.
Tout ça.
Et là vous dites comment c'est possible?
Ouais. Après on peut les voir à l'œil nu mais on ne distingue pas en fait toute la subtilité de ces petits comportements. Et ensuite l'approche c'est généralement d'essayer de développer une hypothèse. Ah peut-être que le mécanisme de navigation est un tel et du coup l'effort d'après ça va être de construire une expérience à tester sur le terrain. Si on entraîne les fourmis comme ça et on change l'environnement comme ça, si mon hypothèse est correcte, elles vont à droite. Si mon hypothèse est fausse, elles vont à gauche, par exemple. Et c'est comme ça qu'on avance petit à petit.
Ouais. Est-ce qu'elles se dirigent aussi en observant un peu ce qui se passe dans leur environnement, justement?
Alors, il va y avoir clairement les fourmis qui ont appris leur route. Petit à petit, vont suivre leur route de façon de plus en plus précise. Et ça, c'est guidé par la vision. Ouais. Sur la grande majorité des espèces qui ont des yeux, utilisent leurs yeux pour la navigation.
Ouais.
Le suivi de route, mais aussi être capable de revenir à sa route quand on s'est fait déplacer par un expérimenteur, par exemple, sur le côté. Et donc ça, c'est des stratégies pareilles. On a, comme je vous disais, des réseaux de neurones qui sont inspirés des circuits des fourmis pour essayer de reproduire ces comportements. Et on n'a pas encore tout compris. Hein.
Ouais.
Il y a des choses qu'on constate qu'elles font et on ne sait pas comment c'est possible.
Ouais. Et elles utilisent la voûte céleste ou pas aussi, parfois, dans leur déplacement?
Alors, il faut savoir qu'elles voient un monde visuel complètement différent du nôtre.
Ça ressemble à quoi un œil de fourmi?
Alors un œil de fourmi, c'est un œil à facettes, un petit peu comme une mouche,
souvent un petit peu
plus petit, ça dépend des espèces. Et chaque facette ne voit pas une image entière, si vous voulez. Chaque facette voit une petite partie du monde, donc en final, quand vous reconstituez toutes les facettes les unes à côté des autres, ça donne quand même une image, mais une image très floue par rapport à la nôtre. Et donc on se disait avant, mais comment les fourmis sont capables de naviguer par exemple dans la forêt vierge? malgré leur vision très floue. Et en fait, on commence à comprendre que c'est grâce à leur vision très floue. Parce que si vous avez une vision à très haute résolution, il va y avoir des petits problèmes pour pouvoir reconnaître une scène quand ça a un petit peu bougé. Imaginez, vous avez appris, vous prenez une photo, ensuite vous vous décalez de 5 mètres sur le côté, vous prenez une autre photo. À très haute résolution, ça va être beaucoup plus dur de voir que c'est quand même un endroit assez similaire qu'avec une photo à basse résolution. Si la résolution est trop basse, en fait, imaginons 2 pixels de gris, là vous allez reconnaître tout partout, donc c'est pas bien non plus. Mais si la résolution est trop haute, vous n'êtes pas capable de généraliser. Et donc il faut faire un certain compromis pour être un peu robuste. Et ça correspond à peu près à une information tous les degrés, ce qui correspond à notre œil aussi, l'œil périphérique. Notre haute résolution, c'est que la fovéa, mais la fovéa n'est pas forcément utilisée pour la navigation tant que ça, et pour la reconnaissance d'objets, la reconnaissance de faces d'autres personnes. Mais au final, la grande partie de notre rétine, elle est à basse résolution, plutôt comme les insectes. Ouais.
Audrey Dussoutour, vous allez sur le terrain, vous aussi, pour étudier les fourmis, ou vous préférez les observer en laboratoire?
Ah non, moi je suis un rat de laboratoire, j'avoue. En plus, mes fourmis vivent dans mon bâtiment, puisqu'elles ont envahi. Donc je suis dans leur je suis sur le terrain
c'est
des fourmis d'Argentine.
Vous êtes gracieusement hébergé par vos fourmis.
Exactement. Non, je ne vais pas sur le terrain. Ouais. Je préfère le travail de laboratoire. C'est plus parce que j'aime bien contrôler. Ouais. Et sur le terrain, on ne contrôle pas.
Alors, il y a des publications, évidemment, que vous écrivez régulièrement sur vos découvertes autour des fourmis. Ce travail, par exemple, sur la circulation, là, sur le trafic des fourmis, ça peut servir à quoi concrètement? Alors, une fois qu'on l'a observé, une fois que la connaissance est acquise, on pourrait l'appliquer pour des choses particulières ou pas?
Oui, sûrement. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est pas mon travail. Donc, moi, je fais, et Antoine aussi, on fait de la recherche, ce qu'on appelle fondamentale. Mmh. Et c'est vrai que nous, on va publier des idées, des résultats que les gens vont sûrement utiliser pour peut-être les appliquer. Mais clairement, nous, notre but, c'est de faire donc avancer la connaissance sur les fourmis. Et c'est vrai que certains algorithmes fourmis ont été utilisés. À l'heure actuelle, je ne sais pas si, par exemple, les algorithmes que j'ai publiés, moi, ont été utilisés. J'avoue, je n'ai pas été regardée. Mais une fois qu'on publie, de toute façon, l'algorithme devient public. Il ne m'appartient plus. Il appartient d'ailleurs à la revue dans laquelle on publie. Et donc, n'importe qui peut aller utiliser ces algorithmes d'optimisation.
Ouais. Antoine Vustra, on avait parlé avec vous il n'y a pas très très longtemps. Je me souviens de l'une de la science, de la marche arrière de la fourmi. Hein. Ça fait partie des publications que vous avez sorties, justement.
Oui, ça, c'est un exemple typique où on n'arrive pas à l'avance avec notre hypothèse comme on peut tester au laboratoire, mais c'est simplement on découvre sur le terrain. Donc on savait depuis longtemps qu'elle pouvait tirer quand la nourriture qu'elle ramène au nid est trop lourde, elles peuvent plus la soulever et marcher en avant, alors elle la tire en arrière. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elles peuvent utiliser quand même la reconnaissance de scène, donc les visions qu'elles ont apprises pour pouvoir rentrer au nid en marche arrière. Donc ça, c'est impliqué un phénomène un peu plus complexe comparé à notre hypothèse de base de comment leur cerveau permettait d'apprendre ces scènes visuelles.
Ouais.
En fait, elles utilisent une petite technique qui est simplement, elles relâchent leur cookie, elles font demi-tour, elles s'alignent comme d'habitude, donc elles reconnaissent la scène en marche avant, ensuite elles reviennent à leur cookie. Mais ça, pourquoi...
À leur gâteau,
petit gâteau. Parce que dans le cadre de notre expérience, c'était un gâteau, mais en milieu naturel, c'est peut-être un peu différent.
Ouais. Et vous avez étudié les coups de vent aussi chez les fourmis, c'est ça? Comment elles faisaient pour retrouver leur bon sens de l'orientation après avoir été balayées par le vent?
Ça aussi, on avait constaté sur le terrain en Australie, il y a beaucoup de bourrasques de vent et ça arrive que les fourmis qu'on suive, d'un coup, disparaissent et se retrouvent 100 mètres à côté. J'exagère, peut-être 10 mètres.
Ouais.
Et on se demandait, ça se trouve, elles ont évolué quelque chose qui leur permette de résoudre cette stratégie. Et effectivement, avant de se faire souffler, elles écartent les pattes, elles rapprochent leur corps du sol. Et ça leur ouvre une petite fenêtre temporelle où il y a de l'information qui est quelle est la direction compas de ce coup de vent. Donc elles sont capables de prédire dans quelle direction elles vont se déplacer.
Bon, faudra vous réinviter parce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre de la part des colonies de fourmis, Antoine Vustrard et Audrey Dussoutour. Merci beaucoup. Bon retour à vous à Toulouse puisque je rappelle que vous travaillez au Centre de recherche sur la cognition animale au sein de l'Université Paul Sabatier. Merci infiniment.
Merci à vous.
À bientôt.
Merci.